Évangile selon Luc, chapitre 2, les versets 25 à 35. Or, il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » J'espère ne pas vous choquer en posant la question. Mais qu'est-ce qui vous permettrait de partir en paix? D'envisager la fin de votre vie. Et on ne sait pas combien de temps le Seigneur nous donnera vie. Mais qu'est-ce qui vous permettrait de partir en paix? Après avoir pris ce bébé dans les bras, Siméon affirme « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Qu'est-ce qui vous permettrait de partir en paix? Thierry Roland est un journaliste commentateur de matchs de foot. Il est décédé le 16 juin 2012, ici à Paris. Et suite à son décès, on est revenu sur certaines de ses citations célèbres. Et l'une d'elles, c'est sa réaction à la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 1998 contre le Brésil. Et à l'issue de la finale, voici ce qu'il affirmait. « L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez, ça ? L'équipe de France est championne du monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. » Et il est effectivement décédé, 14 ans plus tard. Est-ce que la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde permet de mourir tranquille? On pourrait penser à d'autres choses. À voir sa famille réunie une dernière fois. On pourrait penser au fait d'avoir accompli un objectif de vie, achevé une œuvre. On pourrait penser au fait d'avoir transmis un patrimoine à ses enfants. On pourrait penser à une belle trajectoire pour ses enfants. Qu'est-ce qui nous permettrait de partir en paix? En fait, la question, elle se pose par rapport à Siméon. Qu'est-ce qu'il y avait de si apaisant dans ce qu'il a vu ce jour-là et qui lui a permis, qui nous permettrait, nous aussi, d'être apaisés, profondément apaisés? Il ne nous est pas donné d'avoir porté, il ne nous a pas été donné de porter ce bébé. Et pourtant, Luc, quand il introduit son évangile, il écrit en affirmant que ses lecteurs ont besoin de reconnaître la certitude des enseignements qu'ils ont reçus, Théophile, en première ligne. Et pour Luc, ces lignes qu'il rédige, et par la suite la mort dont il va parler aussi, par tout ce qu'il écrit, il sait que nous avons besoin de quelque chose de fondé, de solidement ancré pour affronter la mort. Et en me posant cette question, je ne veux pas sous-entendre qu'un chrétien ferait face nécessairement à la mort paisiblement, sans aucune réaction, face à la réalité de la mort, l'immédiateté de cette mort, face à l'intensité de la souffrance que quelqu'un peut vivre, face aussi peut-être aussi aux conséquences du départ pour les autres, il est possible que nous soyons juste face à la mort, troublés, angoissés, même en tant que chrétiens. Mais la remarque de Siméon, elle nous interpelle, n'est-ce pas ? Elle nous donne envie. Qu'est-ce qui nous permettrait de dire comme lui, tu laisses ton serviteur, ta servante partir en paix ? Ce jour-là, Siméon a pris dans ses bras un bébé. Ce bébé incarne trois choses au moins. La première chose, c'est la réalisation d'une promesse, de la promesse. Le salut. Et troisièmement, la ligne de démarcation. On verra davantage par la suite. Mais la réalisation de la promesse, le salut, la ligne de démarcation. Il s'agit ici du quatrième cantique que Luc retranscrit et très probablement, c'est par l'intermédiaire de Marie qu'il a ce témoignage. C'est souvent par père que Luc nous a présenté des témoignages. Il y a eu l'annonce de la naissance à Zacharie, ensuite à Marie. Il y a eu leur cantique respectif. Il y a eu la naissance des deux enfants, de Jean et de Jésus. Ici, ce sont deux témoins, Siméon et Anne, qui nous sont présentés, avec des témoignages complémentaires. Tous deux sont décrits comme des personnes pieuses, attachées à Dieu. Tous deux vivent dans l'attente. Simon vit dans l'attente de la consolation d'Israël. Anne vit dans l'attente de la rédemption. Tous deux voient en ce bébé la réponse à leurs attentes. Mais c'est la rencontre de Siméon qui va retenir notre attention. C'est sur lui que l'on va se focaliser. On est placé devant une rencontre providentielle. Il nous est certainement tous déjà arrivé de faire une rencontre inattendue. Et peut-être qu'il vous est arrivé par la suite de cette rencontre de le dire, de le partager avec quelqu'un. Tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré. Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé. Alors, si la personne n'a pas envie de chercher, elle vous demandera tout de suite de qui il s'agit. Vous lui dites et vous lui racontez les circonstances de cette rencontre et effectivement, la personne est plus ou moins surprise de la rencontre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la rencontre de Siméon avec Jésus ici ? Eh bien, c'est la rencontre d'un homme qui vit à Jérusalem avec un bébé originaire de Galilée, né à Bethléem. C'est la rencontre d'un homme en fin de vie et d'un bébé tout au début de la sienne. C'est la loi de Moïse qui pousse Joseph et Marie à se rendre au temple pour accomplir ce qui est prescrit par la loi. 5 références à ça. C'est l'Esprit qui pousse Siméon. 3 références à l'Esprit, conduit par l'Esprit. Et dans cette rencontre, il y a le mélange d'attendu et d'inattendu. Siméon savait par l'Esprit qu'il allait voir le Messie avant de mourir. Et en même temps, je ne sais pas exactement à quel moment ce sera le cas. On peut l'imaginer se rendre jour après jour au temple et se demander si c'est tel ou tel enfant. Mais un jour, il sait que c'est vers cet enfant en particulier qu'il doit se rendre. Il prend ce bébé dans les bras et c'est là, pour commencer, la réalisation d'une promesse qu'il tient dans les bras. La réalisation d'une promesse. Les parents ici ce matin ne sont pas étonnés de savoir que quelqu'un veut prendre un bébé dans les bras. On est touché par la douceur d'un enfant, sa fragilité, sa beauté. Mais tout particulièrement pour Zacharie ce jour-là, il a dû être rempli d'émotions en prenant dans ses bras celui qui est en même temps un bébé et la réalisation de la promesse. Quelle promesse ? Dans son cantique, Siméon fait allusion à une promesse tenue, verset 29. Est-ce qu'il s'agit de la promesse qui lui a été faite personnellement par l'Esprit, verset 26. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Est-ce que c'est la promesse plus générale d'un Messie ? Pas forcément nécessaire de trancher entre les deux. En tenant Jésus dans les bras, il tient la réalisation des deux promesses, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans une promesse? Alors je sais qu'on en a beaucoup parlé dans les médias. Je vais une fois encore revenir sur Johnny Hallyday, décédé au début de ce mois. Une de ses chansons phares est « Je te promets, je te promets ». Et il chantait « Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets ma vie de mes rires à mes larmes, je te promets le feu à la place des armes, plus jamais des adieux, rien que des au revoir. » Et par ses promesses, on comprend que c'était une manière pour lui d'exprimer son amour à son vis-à-vis, manière de sécuriser son vis-à-vis par ses promesses. Il poursuit en chantant qu'il croit à ses promesses comme il croit au soleil, comme il croit à la terre. Mais vers la fin de la chanson, il viendra néanmoins à dire qu'il est possible qu'il mente. Il est possible que cette histoire d'amour se finisse au matin. Et on réalise que toute la beauté de cette promesse s'effondre quand il relativise la fermeté de ses promesses, quand il relève que ses promesses ne seront peut-être pas tenues. Des promesses non tenues, c'est ce qui a caractérisé l'humanité à travers les âges. Et Siméon est bien placé pour le savoir, lui qui attendait la consolation d'Israël. Pourquoi la consolation? Bien, la consolation, elle doit venir vis-à-vis d'un peuple, et Isaïe l'a annoncé, qui a été infidèle à son Dieu, qui n'a pas tenu ses alliances vis-à-vis de son Dieu, et qui doit subir les conséquences de ses infidélités, l'exil. Il reçoit par Esaïe la promesse d'une consolation, mais qui viendra après ce jugement. Ce jour-là, Siméon, lui, tient dans les bras la réalisation des promesses de Dieu. Mais qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu tient ses promesses, lui? Ben, ça devrait nous émerveiller, comme ça a émerveillé Siméon ce jour-là. Ça devrait nous sécuriser dans son amour. On en dira davantage dans le deuxième point. Mais ça devrait aussi nous encourager dans l'attente que nous vivons, nous aussi. Avec Siméon, on se situe à la charnière de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et dans l'Ancien Testament, on nous annonce la venue de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on nous présente sa venue, les implications de sa venue. Mais on nous place aussi dans l'attente de son retour. Dans l'attente de son retour. Vivre dans l'attente de la réalisation des promesses de Dieu, ce n'est pas seulement pour les chrétiens croyants de l'Ancien Testament. L'automne dernier, on a vécu une retraite d'église sur le thème du ciel. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a une tentation en moi, c'est de biffer le sujet en estimant que c'est bon. On a parlé du ciel, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Mais nous aussi, nous avons à vivre dans l'attente. Nous aussi, nous avons à vivre dans l'attente de cette manifestation, de la venue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'attente de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et on peut être encouragé par le témoignage de Siméon, qui lui a vu la réalisation de cette promesse ce jour-là, et qui nous encourage nous aussi dans cette attente. Mais Siméon ne tient pas seulement dans les bras la réalisation de la promesse, il tient aussi le salut, ni plus ni moins. Le terme est fort quand on y réfléchit. Quelles sont les représentations du salut dans l'Ancien Testament? Moïse et le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge et l'armée égyptienne qui est submergée par l'eau. Et il nous est dit que ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Le salut de Dieu est dans cette délivrance-là. Le roi Josaphat fait face à une coalition des Ammonites et des Moabites et Dieu lui annonce « Vous n'aurez pas à combattre, tenez-vous debout et regardez » le salut que le Seigneur vous accorde. Le salut de Dieu est dans cette victoire-là. Et maintenant, il faudrait regarder un simple bébé pour voir le salut de Dieu? Alors c'est vrai, parfois le salut est incarné par des personnes. On pense à David qui a combattu pour tout un peuple contre Goliath. On pense au juge que Dieu a suscité pour délivrer son peuple. Mais là, il faudrait se tourner vers un simple bébé pour voir le salut. Oui, dans la même veine que Zacharie et Marie, Siméon a reconnu en Jésus le Sauveur, celui qui incarne le salut, alors qu'il n'est qu'un bébé. Mais alors, il sauve de quoi? Il sauve de quoi? Quand Zacharie parle du salut que cet enfant va apporter, il dit que ce sera le pardon des péchés. Quand Marie et Joseph entendent le nom qu'ils doivent donner à cet enfant, ils doivent l'appeler Jésus parce qu'il sauvera le peuple de ses péchés. Jésus est donc venu nous pardonner de nos péchés. C'est de cette manière qu'il va sauver. Mais Siméon poursuit par une autre image. Car mes yeux ont vu ton salut, verset 30, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus incarne la lumière pour les nations. On se souvient que c'était la vocation des descendants d'Abraham d'être une lumière pour les nations, vocation qu'ils n'ont pas pu vivre. Mais Jésus, lui, incarne la lumière pour toutes les nations. Il est fort probable que Siméon avait à l'esprit ces paroles d'Ésaïe. « Lève-toi » au chapitre 60, versets 1 à 3. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Vous avez entendu ? À la fois la lumière et la gloire. Comme personne, Jésus va être ce révélateur pour toutes les nations. Il va être cette gloire de Dieu. Et parce qu'il est issu du peuple d'Israël, descendant d'Abraham, il est une gloire pour ce peuple-là. Et la lumière, elle décrit bien cet aspect révélateur. On le voit dès les premières rencontres de Jésus. Lorsqu'il commence son ministère, toute première rencontre, ça commence par la réaction des démons. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et par la suite, cette lumière sera projetée sur Pierre, qui s'écrie « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » On pourrait voir Jésus comme une simple bougie, une petite lumière de Noël sur le sapin, quelque chose de décoratif à la maison. Mais la lumière que Jésus incarne est beaucoup plus pénétrante, elle est beaucoup plus puissante. C'est plutôt un projecteur qui va jusqu'au plus profond de l'être, qui met en évidence les moindres défauts. Chacun d'entre nous. Et face à lui, il est tentant de nier notre besoin de lumière, de nier notre besoin de salut, de nier notre besoin de pardon. Mais on ne le reconnaîtra pas vraiment si on ne commence pas par reconnaître précisément qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être pardonné. Au chapitre 5, toujours, on critique Jésus parce qu'il est à table avec des collecteurs d'impôts. Il mange avec des collecteurs d'impôts. Et Jésus saisira cette occasion pour dire qu'il est venu sauver non pas des justes, des personnes qui se croient justes, mais des injustes. Il n'est pas venu guérir des bien portants, qui se pensent bien portants, il est venu guérir des malades. Autrement dit, tout commence par notre réaction à cette lumière, par le fait de reconnaître ou non notre péché vis-à-vis de lui. Et lorsqu'une personne reconnaît son péché, Jésus peut alors sauver cette personne de ses péchés, la pardonner. Jésus incarne donc la réalisation d'une promesse. Il incarne le salut, la lumière du monde. Et troisièmement, il incarne aussi une ligne de démarcation. Une ligne de démarcation. Alors, avant d'expliquer cette expression, essayons de nous mettre dans la peau de Joseph et Marie qui étaient là et qui ont entendu Siméon. Luc nous dit qu'ils étaient émerveillés de ce qu'on disait de leur enfant. Et tout ce qui a été dit jusqu'à présent de cet enfant, effectivement, est tellement élogieux, tellement fort, qu'on est effectivement en droit d'être émerveillé. Mais il doit être difficile pour eux d'imaginer les difficultés qui sont à venir. Après cette louange de Siméon, adressée à Dieu et entendue par les parents, il se tourne vers eux, il les bénit et s'adresse ensuite à Marie. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Siméon parle ici de chute et de relèvement. Une image qui revient souvent dans le Nouveau Testament, c'est celle de Jésus qui est comme une pierre, une grosse pierre. Une pierre qui peut provoquer la chute, on trébuche dessus, ou alors être le fondement sur lequel toute notre vie repose, toute l'Église repose. Jésus est comme cette pierre qui provoque pour les uns une chute et pour les autres qui est le fondement de leur construction. Et c'est pour ça que le message va provoquer la contradiction. Certains le rejettent et certains au contraire choisissent Jésus comme pierre angulaire de leur vie. Et cette lumière qu'il incarne, ce salut qu'il révèle, il va révéler deux types de réactions. Soit ce sera le rejet et l'incrédulité, soit ce sera la repentance et la foi. Il incarne comme une ligne de démarcation, une ligne qui sépare deux camps, une ligne qui va traverser tout l'évangile de Luc. Et il n'y aura pas de terrain neutre. Il n'y aura pas d'entre-deux. Chacun va se positionner par rapport à Jésus et figurer dans un camp ou dans un autre. Cette ligne de démarcation, elle va même séparer des familles. Au chapitre 12, il dit, « En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » La repentance et la foi d'un côté, le rejet et l'incrédulité de l'autre. Mais il y aura en Jésus une ligne de démarcation. Et c'est la cause des souffrances pour Marie. De temps à autre, pour un parent, on vit la souffrance liée à son enfant. Il y a une dizaine de jours, j'ai amené une de mes filles à l'école. Et je suis resté quelques instants pour observer comment ça se passait. Elle s'est rendue dans la cour, il y a une bonne centaine, 150 enfants. Et elle entre dans la cour, elle ne retrouve pas ses copines tout de suite. Alors je précise qu'elle aime aller à l'école, qu'elle a des copines à l'école. Mais ce jour-là, elle ne les a pas trouvées. Donc elle se rend vers un petit groupe de 3 personnes. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit, mais ce que j'ai vu et ce qui était évident, c'est que le groupe se retire et laisse ma fille toute seule. Et vous imaginez, en tant que père, ça donne un coup. C'est l'occasion de prier pour elle, de prier qu'elle puisse trouver une sécurité en Jésus, quoi qu'il arrive. Mais ici, c'est un plus grand rejet encore. C'est une épée qui va transpercer jusqu'à l'âme de Marie, quelque chose de bien plus violent encore. Cette contradiction qui va mener Jésus jusqu'à la crucifixion. C'est ça qui va faire souffrir Marie. un poignard, un coup de poignard, une épée qui va la transpercer jusqu'à l'âme. Et cette prophétie de Siméon a probablement pour but de préparer Marie à ce moment-là, à ces souffrances qu'elle va subir, mais peut-être aussi de l'aider dans sa compréhension de qui est ce Messie, qui est son enfant. À la fin du livre de Luc, on va voir que les disciples de Jésus ont beaucoup de peine à comprendre ses souffrances. Ils ont beaucoup de peine à accepter qu'il ait souffert de cette façon. C'est comme si Siméon, déjà ici, avec Marie, voulait l'aider à comprendre qui est son sauveur. On nous pose régulièrement des questions au sujet de Marie, de la place que nous donnons à Marie. Et Matthieu a bien fait de relever, il y a deux dimanches, que Luc est très élogieux par rapport à Marie, quand il la met en contraste avec Zacharie. Il élève cette femme comme une femme humble et une femme de foi, et nous devrions reconnaître en elle une femme de foi et humble. Mais ici, on voit que Marie, elle aussi, a besoin de cheminer. Elle aussi a besoin de grandir dans sa compréhension de Jésus, malgré tout ce qu'elle a entendu. Luc dit à plusieurs endroits qu'elle méditait ces choses. Et écoutez le commentaire d'un théologien catholique à ce sujet. Les formules qui évoquent la méditation, certes, ont montré que Marie ne comprenait pas encore complètement les conséquences de ce qui était arrivé. Cela préserve son statut de disciple, y compris après tout ce qui lui a été révélé. Elle a encore à apprendre l'identité de son fils à travers la souffrance du ministère et de la croix. Jésus incarne cette ligne de démarcation. Marie a besoin de le comprendre et nous avons besoin de le comprendre. C'est l'occasion de nous poser la question, comment est-ce que nous allons nous positionner par rapport à Jésus? Comment nous sommes-nous positionnés par rapport à lui? Est-ce qu'il sera pour vous, pour moi, une occasion de chute ou une occasion de relèvement? Est-ce que nous allons le rejeter et ne pas croire en lui? Ou au contraire, est-ce que nous allons vivre cette repentance et cette foi en lui? Nous serons d'un côté ou de l'autre de cette ligne de démarcation. Elle traverse toute l'humanité. Je me souviens d'un chant qu'on chantait à notre groupe de jeunes en Suisse. Alors, de toute évidence, il n'est pas très connu. Il s'agit d'un chant qui était comme adressé à Siméon. Et le refrain était le suivant. « Maintenant, tu t'en vas dans la paix du matin. » En laissant derrière toi le chemin, Siméon qui a vu le Messie, le salut, et qui peut repartir en paix. C'est peut-être pas la fin de notre existence, ce n'est peut-être pas proche de la fin, mais je nous souhaite à chacun d'entre nous de partir ce matin dans la paix, en ayant vu en Jésus celui qui est la réalisation de la promesse de Dieu, celui qui est le salut, la lumière du monde, celui qui incarne une ligne de démarcation. Et si c'était notre refrain aussi, maintenant tu t'en vas dans la paix du matin en laissant derrière toi le chemin. Amen.